J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que l'homme naturel a une perception de la justice dans sa conscience? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On termine nos leçons tirées du livre des Actes des Apôtres aujourd'hui. Je suis vraiment épatée de tout l'enseignement du livre des Actes des Apôtres. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures dans ce dernier chapitre. Est-ce que Dieu veille à l'accomplissement de son plan? À quoi doivent servir les dons que Dieu nous accorde? L'homme de Dieu doit-il refuser de faire tout autre travail que celui de prêcher l'Évangile? Est-ce que l'homme naturel a une perception de la justice dans sa conscience? Pourquoi Dieu a-t-il accordé à Paul le don de faire des guérisons? Est-ce que le fait que Paul était prisonnier l'a empêché d'annoncer l'Évangile? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé toutes nos réponses et il est prêt à nous donner un enseignement des plus enrichissants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on veut aller à toi dans la prière. Tu nous donnes ce moyen de te parler, de te faire connaître nos besoins. Et on te remercie d'un seul cœur. Parle-nous, enseigne-nous, fais-nous connaître tes voies. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'une tempête a poussé le navire sur lequel voyageait Paul, loin de l'île de Crète. La tempête violente a duré 14 jours. L'équipage et les passagers avaient perdu tout espoir, sauf Paul, à qui un ange a dit que le navire échouerait, mais que personne ne périrait. Le Seigneur avait dit à Paul qu'il se rendrait jusqu'à Rome pour témoigner et partager l'Évangile. Donc, Paul a pris une autorité morale sur le groupe. Il a encouragé toutes les personnes à bord et il les a exhortés à prendre de la nourriture. Il prend soin de ceux de son entourage. Finalement, le centenier a écouté le conseil de Paul lorsqu'il l'avertit que les marins ne devaient pas abandonner le navire. De plus, ils reprirent courage lorsque Paul leur dit qu'un ange l'avait informé que tous survivraient au naufrage. Quel encouragement pour chacun d'eux! Chers amis, débutons notre lecture du livre des Actes, chapitre 27, versets 35 à 44. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions, dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis, ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Dieu veille à l'accomplissement de son plan. Le navire fit naufrage, mais tel qu'annoncé par l'ange, aucun des 276 passagers ne périrent. De plus, les soldats, qui auraient été punis sévèrement si un prisonnier s'était échappé, voulaient les tuer tous. Cependant, Dieu a disposé le cœur du centenier et il a pris les mesures afin que Paul ne périsse pas. Le fait que personne n'ait péri dans les circonstances est un miracle. Il y eut une intervention divine. Il faut appeler les choses par leur nom. Nous passons maintenant au dernier chapitre du livre des Actes. Nous suivrons Paul de l'île de Malte, sur lequel ils ont échoué, jusqu'à Rome. Là, Paul, malgré qu'il soit prisonnier, aura la possibilité de prêcher l'Évangile aux Juifs et aux païens. Le récit ne se termine pas, car le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, encore aujourd'hui. En effet, ce livre est davantage le livre des Actes de l'Esprit que celui des Actes des apôtres, et l'Esprit est encore en train d'œuvrer parmi nous. Débutons la lecture de ce dernier chapitre du livre des Actes, le 28e, verset 1er. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Nous voyons la providence de Dieu à l'œuvre dans ce naufrage et dans le fait que tous ont atteint l'île sans qu'il y ait eu un seul mort. Tous ces détails nous sont mentionnés pour notre édification, pour encourager le croyant dans sa foi. Verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Le mot grec « barbare » n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Un barbare était simplement une personne qui ne parlait pas le grec. Il n'avait pas le sens de sauvage ou de non-civilisé que l'on donne aujourd'hui à ce mot. Nous voyons ici un exemple de la bonté et de la courtoisie de ces gens. 276 personnes ont débarqué sur la petite île. Parmi eux se trouvaient des criminels condamnés à mort. Ces gens leur ont manifesté de la compassion et ils les ont secourus. Nous avons un autre exemple de cela dans le livre du prophète Jonas. Les matelots ont tout fait pour essayer d'épargner Jonas avant de le jeter à la mer, même après que Jonas leur avait dit qu'il devait le faire. Il arrive que des non-croyants soient plus compatissants que des personnes religieuses. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Les dons servent à prouver la véracité de l'Évangile, non à faire des spectacles. Rappelez-vous les derniers versets de l'Évangile selon Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Ces miracles se sont faits au début de l'Église avant que le Nouveau Testament soit rédigé. Les miracles permettaient de prouver l'origine divine du message de l'Évangile. Aujourd'hui, des personnes éprouvent Dieu ou essaient de démontrer leur spiritualité en se faisant mordre par des serpents. La plupart des gens qui font cela meurent ou en portent des séquelles. Dieu accordait ce miracle pour prouver l'authenticité du message de l'Évangile avant que la Bible soit complète. Il l'accordait à qui il voulait bien. Et il n'a jamais eu comme but de faire des démonstrations pour éprouver Dieu. Notez que Paul n'a pas saisi délibérément la vipère. Paul n'éprouvait pas Dieu. Il semble que Paul avait des problèmes de vue. Nous reviendrons sur ce sujet en étudiant l'Épître aux Galates. Paul n'a simplement pas vu la vipère parmi les branches. L'homme de Dieu ne craint pas le travail. Nous voyons aussi que l'apôtre Paul ne crachait pas sur le travail manuel. Il n'était pas un prédicateur paresseux comme certains le suggèrent. Il n'a pas hésité à reprendre son métier de fabricant de tentes lorsque cela était nécessaire. Nous voyons ici que l'apôtre Paul a ramassé des branches. Les gens de l'île avaient bien accueilli les 276 naufragés. Il faisait froid et le temps était pluvieux, donc on alluma un grand feu. Lorsque le feu baissa, Paul ramassa des branches pour le nourrir. Paul ne craignait pas de mettre la main à la pâte. Non seulement est-ce que la vipère a mordu Paul, mais elle s'est attachée à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Les habitants de l'île ont cru que Paul était coupable d'un crime très grave et que la justice le rattrapait pour le faire périr. Après avoir survécu à la tempête, il mourait empoisonné par le venin de la vipère. Ils ont dû s'approcher pour voir Paul tomber. Ils connaissaient les effets d'une morsure de vipère. Ils s'attendaient à ce que la main et le bras de Paul enflent et qu'il meure. L'homme naturel a une perception de la justice dans sa conscience. Notez que ces païens avaient un sens de la justice. Ils ont supposé que Paul était un assassin et qu'il méritait son châtiment. Aujourd'hui, les gens aideraient peut-être le criminel à reprendre la mer afin qu'il puisse échapper à son châtiment. Cet incident démontre qu'il y avait une conscience de justice dans l'Empire romain. Rome était reconnue pour sa justice et non pour sa miséricorde. Les crimes étaient punis, non pardonnés. Versets 5 et 6. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ses gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Les miracles cités à la fin de l'évangile de Marc se sont accomplis dans le cas de l'apôtre Paul. Ceux qui se font délibérément mordre par des serpents aujourd'hui n'ont pas compris l'intention de Dieu pour ce miracle. Dieu va intervenir auprès de ces gens de l'île de Malte. Maintenant, les habitants de l'île pensent que Paul est un dieu. Quoi qu'ils fussent dans l'erreur à ce sujet, cela a ouvert des portes à Paul sur l'île de Malte. Versets 7 et 8. Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Maintenant, Paul utilise les dons qu'il a reçus pour exercer son ministère d'apôtre. Versets 9 et 10. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Certains pensent que Paul n'a peut-être pas proclamé l'Évangile sur l'île de Malte. Le texte ne dit pas que Paul l'a fait, mais le bon sens nous le dit. Paul a toujours profité de toutes les occasions pour faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin du livre, et Luc n'a plus besoin de mentionner tous les détails. Nous savons comment Paul se comporte. Paul a dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. C'est parce que Paul a prêché l'Évangile que Dieu lui a accordé le pouvoir de faire des guérisons. Ces miracles confirmaient la parole de Dieu. Sur Malte, Paul a fait ce qu'il a toujours fait. Versets 11 à 15. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. La suite du voyage se déroule bien avec des vents favorables. des frères invitent Paul à passer 7 jours avec eux. Cela dut se faire pendant une escale prolongée. Paul a bien accueilli l'encouragement de frères dans la foi. Verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans son domicile particulier, avec un soldat qui le gardait. Dans sa grâce, Dieu disposa les autorités à permettre à Paul de demeurer dans un domicile particulier sous la surveillance d'un soldat. Les soldats devaient se relayer pour surveiller Paul. En fait, il devait être enchaîné aux soldats. Verset 17 à 20. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent. Et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Paul, selon son habitude, présente premièrement l'Évangile aux Juifs. Il les convoque et leur explique les circonstances qui l'ont conduit à Rome. Sans omettre de présenter l'Évangile. Versets 21 à 24. Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Paul avait suffisamment de liberté pour recevoir de nombreux invités. Cependant, un soldat l'escortait continuellement. De nouveau, nous voyons Paul utiliser sa connaissance de l'Ancien Testament afin de persuader les Juifs que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie attendu. Comme d'habitude, certains croient et se convertissent à Jésus, d'autres rejettent le Seigneur. Oui, Dieu nous place devant un choix, devant une décision. Soit que vous acceptiez le message, soit que vous le rejetiez. À vous de choisir. Versets 25 à 31. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit. « Va vers ce peuple, et dis. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Les chaînes de Paul n'ont pu retenir l'Évangile ni arrêter son progrès. Dieu avait dit à Paul qu'il prêcherait l'Évangile à Rome et il eut la possibilité de le faire en toute liberté pendant 2 ans. Paul était déjà arrêté, donc il ne fut pas persécuté. Il n'eut pas de tribulations qui ont fait obstacle à l'Évangile. Le livre se termine avec Paul qui prêche le royaume de Dieu et enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Si le livre se termine, l'histoire, elle, n'est pas terminée. L'Évangile fut proclamé à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et maintenant, elle atteint les extrémités de la terre. c'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est toujours actif et il n'a jamais cessé de l'être depuis la fondation de l'Église, depuis le deuxième chapitre du livre des Actes. Le dernier chapitre du livre des Actes s'écrira au retour de Jésus-Christ alors qu'il reviendra chercher son Église. Tout ce que vous et moi aurons fait pour Dieu par la puissance du Saint-Esprit sera inscrit dans les registres célestes. Oui, chers amis, Dieu est à l'œuvre, l'Esprit-Saint travaille encore chez nos contemporains, essayant de les convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils puissent se détourner du mal et se tourner vers Jésus-Christ et de l'implorer comme leur sauveur personnel. Dieu est à l'œuvre à travers ses émissions, à travers la Bible, afin de pouvoir attirer des gens comme vous à la connaissance de Christ. Vous avez pu remarquer que dans le livre des Actes, des gens suivirent le Christ comme leur sauveur et seigneur de leur existence. On a même pu retracer la première fois que le mot « chrétien » a été cité. Être chrétien, c'est un titre de gloire, chers amis. Chrétien signifie « disciple du Christ ». Et vous vous rappelez que c'était Antioche, une des grandes villes du monde, où l'on parlait grec, ville riche et civilisée, que le nom fut donné pour la première fois à ceux qui reconnaissaient Jésus comme le Christ, le Sauveur que Dieu avait envoyé. Il apportait la grâce et la vérité, mais les hommes l'ont rejeté et crucifié. Il est mort et a été ressuscité, élevé au ciel par Dieu et ensuite prêché au monde entier. Ce n'étaient pas les Juifs qui avaient donné un tel nom aux disciples de Jésus de Nazareth, car s'ils attendaient le Messie annoncé par les prophètes, autrement dit le Christ, ils refusaient de le reconnaître en Jésus. Mais la grâce de Dieu avait fait répandre l'Évangile au-delà des limites d'Israël. Les gens des nations environnantes l'entendaient et le croyaient. Et c'est à l'ensemble des croyants, juifs d'origine, ou gens des nations, que ce nom fut donné. On l'employait sans doute souvent par dérision. Voilà ceux qui adorent, comme Dieu, un crucifié. Mais quel titre de gloire pour ses disciples, tous ceux qui croyaient en son nom, que de porter un tel nom. Devenue, depuis des siècles, l'appellation commune de centaines de millions d'hommes, ce nom a perdu à l'usage beaucoup de son relief. La croix a cessé d'être un objet de dérision. De nombreux chrétiens en ont perdu la signification spirituelle. Mais ceux qui ont été rachetés par le sang précieux du Christ ont la responsabilité de porter ce nom d'une manière digne de lui. « Si quelqu'un souffre comme chrétien, disait l'apôtre Pierre, puisse le nom de Christ être honoré dans notre vécu par nous qui le portons. Tu te déclares du Christ, disciple de Christ, tu portes le nom de chrétien. Quelle gloire que de porter ce nom. Porte-le fièrement. Porte-le dignement. Le nom de Jésus-Christ. Quel beau nom! Le nom le plus merveilleux, du moins. Nous devrions le considérer de la sorte. C'est celui que Dieu nous a envoyé du ciel, et c'est celui que nous devons recevoir en tant que sauveur personnel. Il est le seul nom qui nous a été donné afin que nous puissions être sauvés de la perdition éternelle, de la puissance du péché, de ton péché. Prochaine émission, un nouveau livre, 1 Samuel.
Merci, Régent. Je ne peux m'empêcher de me rappeler les beaux souvenirs reliés au chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres. Il y a une vingtaine d'années, j'étais dans une période de lourdes épreuves et j'étais rendu à ce livre dans ma lecture continue de la Bible. J'ai vécu quelque chose de vraiment encourageant à travers cette lecture. Régent appellerait ça un petit clin d'œil du Seigneur. Quand ses enfants souffrent, Dieu envoie parfois un oasis dans leur désert. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il ne m'a pas donné un enseignement particulier pendant cette lecture, mais simplement un encouragement qui a grandement réjoui mon cœur. La première chose qu'il m'a donnée est au verset 38 où il est dit que quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. En lisant ce verset, j'ai réalisé qu'il y avait des choses dans ma vie que je devais jeter à la mer, des choses que je devais me débarrasser pour alléger mon fardeau et vivre pleinement la belle vie que Dieu m'avait donnée en Jésus. Et deuxièmement, c'est à la fin du chapitre 27 que j'ai vécu quelque chose d'intéressant. Ça s'est passé alors que le navire était en train de faire naufrage. Laissez-moi vous lire les versets 43b et 44. Le centenier ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. En lisant ce passage, j'ai réalisé que Dieu m'avait équipé avec des dons et des capacités, comme il le fait d'ailleurs pour tous ses enfants, et que j'étais en mesure d'être parmi les premiers à se jeter dans l'eau, c'est-à-dire à m'avancer pour accomplir une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour l'Église dont j'étais membre. Dieu me montrait qu'une fois que ceux qui avaient saisi ce que Dieu nous demandait se levaient et agissaient, les autres suivraient, et ensemble on pourrait faire de grands exploits. Par ces simples versets, Dieu m'a encouragé à avancer pendant mon temps d'épreuve et même à encourager mes frères et sœurs en Jésus-Christ à en faire de même. Quelle joie de voir la main de Dieu nous guider par sa parole. Dans le psaume 119, au verset 105, le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le Seigneur nous encourage de diverses manières, mais la meilleure, à mon humble avis, c'est la lecture et la méditation de la Bible qui est sa parole. Mon ami, j'aimerais t'encourager à ne jamais passer une journée sans plonger tes regards et ton cœur dans la parole de Dieu. Tu as toutes les instructions dont tu as besoin pour être heureux en accomplissant la volonté de Dieu. As-tu une Bible? Tu es peut-être comme j'étais à l'âge de 29 ans, un an avant ma conversion. Je ne possédais même pas une Bible. Je ne savais pas que ce livre était si précieux, mais maintenant que je le sais, je ne peux pas m'en passer. Mon ami, j'aimerais t'encourager à te procurer une Bible et à la lire à chaque jour. Et avant de faire ta lecture quotidienne, demande à Dieu qu'il t'éclaire, qu'il te fasse comprendre sa pensée pour toi, ce qu'il désire t'enseigner. Il va se faire connaître à toi si tu lui demandes sincèrement. N'a-t-il pas dit « Cherchez et vous trouverez » Alors, cherche la volonté de Dieu dans le grand livre de Dieu. C'est sa parole. Elle est pleine de richesses pour toi, pour te donner une vie abondante, une vie dans la paix et dans la joie.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.